Comme je suis le seul Italien ici présent, je peux le faire. Je commencerai pour célébrer la fête de la République française. La fête nationale. C'est pour ça que j'ai ça avec, non, vive la France. Hein? Écoute, le texte de la Marseillaise n'est pas pour moi trop méditatif. Voilà. C'est un peu. Un peu singulière, c'est vrai, non? Mais parce que. Parce, pourquoi je commence par là? Parce que. Je ne rigole pas, hein? Je commence vraiment par là. Dans le sens que vous le savez, ce matin, Sœur André a commencé la journée en disant fraternité, liberté, égalité, non? Et on était au milieu, c'est vraiment la France, c'était la nation par excellence du siècle des Lumières, non? Et mon thème, ma méditation cet après-midi s'appelle Je suis la lumière du monde. Et donc, ça m'a semblé évident que je devais partir par là. Et. Aussi parce que peut-être il y a des différences, voilà, entre la liberté et la fraternité, l'égalité dont le siècle des Lumières parle et la liberté que Jésus nous donne. Ok, ça va? Je voudrais lire avec vous le début d'un miracle très amusant. Très amusant. L'un des plus amusants pour moi. C'est l'aveugle né. Non? Jean chapitre 9. Et moi, je m'arrêterai au verset 1-7, c'est-à-dire juste le miracle. Parce qu'après ce miracle, il y a tout le procès. Non? Les gens qui disent à l'aveugle né, qui à un moment donné commence à voir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit plusieurs fois, bon, je ne sais rien. Avant, je ne voyais pas, maintenant je vois. Avant, je ne voyais pas, maintenant je vois. Avant, mais qui a fait ça? Mais je ne sais pas, j'étais aveugle, donc je ne l'ai pas vu. C'est ça, c'est vraiment ça. Jusqu'à la fin, non? Après tout le procès que les parents, que les pharisiens, c'était les pharisiens, comment ils disent? Le Synédrion met en place, non? Parce que le miracle s'est passé au samedi, tout comme d'habitude d'ailleurs, non? C'est hein? Le jour de sabbat. Et donc, comme c'était interdit, bon, le Synédrion met en place un procès. Et donc, il appelle l'aveugle et il dit, moi, j'en sais rien. Moi, je ne voyais pas. Maintenant, je vois. Et après, les parents, nous, ne savons rien. C'est bien notre fils. Il ne voyait pas. Maintenant, comment se fait-il qu'il voit? On ne le sait pas. Et après, à nouveau, il lui dit, mais pourquoi vous êtes si intéressé? Est-ce que vous voulez devenir ses disciples? Non, non, nous. Ce disciple, non, absolument pas. Non, non, tu es nul. Non, c'est. Et quand il est chassé, il rencontre Jésus. Et bon, alors tu vois bien. Oui, c'est toi, mon Seigneur. Non? Et donc, cette profession de foi qui naît en cet aveugle, né, qui devient voyant. Cette confession de foi se fait par progression, non? C'est comme si, en racontant son histoire, la réalité de la lumière se devenait réelle en lui, jusqu'à la reconnaissance du Seigneur. Et moi, je le trouve un miracle magnifique, extraordinaire. Mais je m'arrêterai seulement la première fois, la première partie, jusqu'au verset 7, et après. Vous pouvez vous amuser pour le lire tout seul dans la méditation. Ok, ce sera sympa. Mais en fait, quand j'ai médité ce chapitre 9 de Jean, c'était l'une des lumières qui vraiment a changé ma façon de penser. Et je me souviens très bien, j'avais fait méditation, j'avais médité, et le matin, en vélo, j'allais à l'école, au travail, et c'était comment? Il faisait chaud, il y avait le soleil, donc la lumière était aussi. C'était au milieu de la prairie, parce qu'il y avait une piste cyclable qui passait par là, donc c'était aussi très beau. Mais la conscience de ce que ce miracle dit, ses yeux qui s'ouvrent sur une réalité nouvelle, qui est la réalité de la résurrection, est quelque chose qui m'a vraiment, qui me donnait une joie et une liberté surtout, non, dont je voudrais parler, dont je voudrais vous parler. Voilà. Donc liberté, lumière, c'est la Révolution française. Et donc, d'abord, le sens, un mot sur les miracles en général dans l'Évangile. Ça, c'est une chose que les jeunes me demandent toujours. Mais au temps de Jésus, il y avait plein de miracles. Aujourd'hui, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Et on ne sait pas quoi dire, en fait. Non ? Eh bien, l'œuvre du Seigneur est de libérer l'homme de toutes ses dimensions, dans toutes ses dimensions. Et dans cette page de Jean, nous touchons au cœur de cette libération. Donc, les miracles ont la fonction de... Ce sont des signes, c'est vrai, mais des signes qui nous libèrent. Et donc, et le miracle des yeux, c'est un miracle d'un changement de regard. Et quand vous voyez, non, les miracles sont une main qui ne... Dessécher une main, desséchée qui à un moment donné commence à faire. Donc c'est peut-être une main qui avant faisait des choses qui n'étaient pas selon le royaume de Dieu et qui à un moment donné, non, par Jésus, commence à aimer, non, à se mettre au service des autres. Et ainsi de suite, on marche vers en faisant la volonté de Dieu. Donc les miracles, en fait, surtout dans l'évangile de Marc, mais partout dans les évangiles, les miracles sont comme une sorte de guérison de l'humanité de l'homme. Ce n'est pas des gestes magiques. C'est comme si, en regardant les miracles, nous pouvons mettre face à nous-mêmes et dire, mais comment j'utilise mes facultés, ma voix, mon capacité d'entendre, comment je mets au service des autres mes mains, comment je mets au service des autres le fait que je peux marcher, et ça, non ? Donc, et il faut pas, on dit souvent les évangiles ne sont pas des livres d'histoire. Et bien, pour les miracles, c'est pareil. Il faut aller voir quelle est la signification des signes. Non, pour l'aveugle-né, c'est la même chose. Première chose. Après, il me semblait aussi que ce miracle nous donnait une façon de penser au monde qui est autour de nous. Est-ce qu'il vous arrive d'être un peu négatif, un peu pessimiste sur le monde aujourd'hui? Ouais, j'espérais mieux. Après 5 jours de retraite, j'espérais un peu mieux quand même. Eh bien, quand les choses vont mal, quand les choses sont mal, il y a un mot que la tradition chrétienne a utilisé, c'est-à-dire c'est la prière d'intercession. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Intercedere, hein, en latin, signifie aller au milieu. Aller au milieu de choses. Parce que nous pourrions penser que intercession, c'est bon, je me mets de côté, je commence à prier et j'espère que quelqu'un d'autre fasse ce qu'il faut faire. Non ? Par contre, non. Intercession signifie aller au milieu des problèmes et ne pas rester en dehors. Signifie se mettre au milieu du monde. Et donc, mais l'intercession, c'est quoi ? C'est lire les faits avec un œil neuf. Et aujourd'hui, juste ce petit pessimisme qui arrive un petit peu, aujourd'hui, on est obligé de le faire. Parce que l'œil auquel nous sommes habitués, non, n'est plus suffisant. C'est-à-dire, la structure de l'Église n'est plus pouvoir. Les chrétiens sont toujours moins, on dirait. Non. C'est-à-dire, il nous semble que la société chrétienne est en train de s'écrouler. Eh bien, il me semble que cette page de l'Évangile nous donne la possibilité d'avoir un supplément de conscience humaine, et c'est-à-dire de faire un saut de qualité dans notre regard. Et donc, l'intercession change d'abord notre cœur et nous place dans une nouvelle relation avec les autres. Pardonnez-moi, mais si on pense, si on est un peu pessimiste, ça signifie qu'on risque de juger les autres. N'est-ce pas? Si on, parce que nous sommes pessimistes pour que les autres ne sont pas bien. Nous sommes bien, non, n'est-ce pas, Lionel? C'est ça un peu le problème. Les autres sont le problème. Et alors, Jésus se révèle être la lumière pour ce regard nouveau sur le monde. C'est la lumière parce que lui, il est le Fils qui nous a révélé le Père. Et donc, regarder avec ses yeux signifie d'abord connaître le Père, tel que Jésus nous le révèle. Cela signifie connaître nous-mêmes comme fils et connaître les autres comme des enfants, comme des frères. Et cela, je disais, non, reconnaître notre humanité, faire un saut de qualité dans la considération de notre humanité. Donc, si j'arrive à faire ça, si par la grâce de Dieu, par le baptême, hein, s'immerger dans l'eau qui nous change le regard, on verra, on verra le signe de Jésus, eh bien, cela signifie être né à nouveau en tant qu'homme. Et pour moi, c'est très fort de comprendre que l'Évangile ne nous propose pas des choses bizarres, des choses étranges. Il s'agit de faire une manière nouvelle ce qu'est l'humanité de l'homme, à la lumière de ce que Jésus nous a révélé. Et donc, l'illumination, hein, la lumière, consiste simplement à voir la réalité telle qu'elle est. Et la réalité telle qu'elle est celle que le Père voit. Il s'agit donc d'ouvrir les yeux. Et c'est le plus grand miracle de Jésus. Le dernier signe sera la résurrection de Lazare. Après, c'est le chapitre 13. Non, on en a déjà parlé. Car ouvrir les yeux signifie s'élever, c'est-à-dire ressusciter à une vie nouvelle. Et donc, parce que, alors, quand on lit l'Évangile, c'est toujours sympa de se mettre à la place de quelqu'un, non? Moi, je suis un peu juge, je me mets à la place, du synédrium. Je peux faire le père et la mère qui ont un peu peur. Mais en fait, nous sommes les aveugles. Nous sommes l'aveugle. Okay. Et donc, et quand on est aveugle, on ne sait pas où aller. Là aussi, quand on est un peu pessimiste sur le monde, on a du mal à comprendre le sens de notre être chrétien. Ce n'est pas vrai? Non? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'en fais de ma foi chaque jour quand je vais au travail, quand je vais... Alors, et si nous vivons comme ça, en jugeant les autres, il y a le risque que nous ne vivons pas comme des êtres humains, mais vivons comme des animaux. Si je ne sais pas que Dieu est Père et que je suis fils et que les autres sont des frères, l'autre est simplement le rival, le concurrent. Alors là, c'est le changement de regard. Alors je vous lis la page. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Jésus répondit, ni lui ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé », ce qui signifie « envoyer ». L'aveugle y alla, il se lava et à son retour, il voyait. D'abord, le fait. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Et là, les disciples disent, « Rabbi, qui a péché pour lui ?» C'était lui ou ses parents ? C'est qui ? Eh bien, d'abord, Jésus vit un homme aveugle. D'abord, l'initiative est de Jésus qui voit. Le premier à voir, c'est Jésus. L'homme ne voit pas Dieu, c'est Dieu qui voit l'homme. Et donc, cela signifie que l'homme ne fait pas du mal par méchanceté. C'est parce qu'il est dans le mauvais sens de sa vie. Il ne voit pas. Et c'est pour ça qu'il se jette ici et là. Il cherche. Il cherche sans un sens. Cet homme vit dans les ténèbres. Et je pense que chacun de nous connaît ces ténèbres un petit peu. Les non-issues, les égarements, les perditions, l'obscurité qui est le contraire de la lumière et le contraire, non, pardonnez-moi, est le synonyme du non-sens, de ne pas savoir où aller. Ça vous est arrivé de temps en temps ? Ça m'arrive tous les 15 jours. Moi, donc, mais parce que je suis philosophe, donc je dois remettre en question tout, non ? Mais la chose intéressante, c'est qu'un aveugle né en soi ne désire pas de la lumière, parce qu'il ne l'a jamais vue. Il ne sait pas ce que c'est. Et pourtant, l'œil est fait pour la lumière. Ça va ? Plus de lumière. Trop de lumière. Donc, il ne sait pas ce que c'est la lumière, et pourtant, l'œil est fait pour la lumière. De la même manière, le cœur de l'homme est fait pour le bien, pour l'amour, pour la joie et le bonheur. Mais il ne sait pas où le trouver. Et c'est pour ça que face au mal, on se pose la question. Quelle faute y a-t-il ? Quelle faute ai-je ? Pourquoi ce mal m'arrive-t-il ? Et nous associons spontanément la maladie à la culpabilité. Ah, d'accord. J'ai accompagné mon père qui mourait il y a quelques mois. Et il souffrait à la fin, il souffrait pas mal. Et il disait de temps en temps cette phrase, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait pour ça ? Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi dire. Mais c'est quelque chose qui vient en nous. C'est quelque chose qui vient en nous quand... Non, qu'est-ce qu'il y a en moi qui est en trouble ? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de pas droit, non ? Et Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Et là, Jésus est extraordinaire. Là, Jésus dit simplement, d'une manière très forte, non, il dit, « Ce n'est pas celui qui souffre qui est le coupable, mais c'est celui qui cause la souffrance qui fait le mal. » C'est comme si Jésus disait à un moment donné, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, moi je suis avec lui et l'histoire de l'homme avec Dieu, ce n'est pas l'histoire des gagnants, c'est l'histoire de ceux qui ont besoin que je les aide. C'est vraiment, et vous allez voir toute l'histoire de la Bible, ce n'est pas l'histoire des gagnants. Non. L'histoire de la Bible est une lecture de l'histoire humaine à l'envers par rapport à tous les critères des livres d'histoire. Ils sont toujours la justification de celui qui détient le pouvoir à ce moment-là. La Bible, au contraire, donne toujours raison aux pauvres. Et donc, paradoxalement, le mal de cet homme, c'est-à-dire cette pauvreté, celui qui est, d'une certaine manière, qui a la malchance de se trouver dans une situation négative, eh bien, est celui que Dieu préfère. dans cette situation de mal, l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. C'est pour ça que Jésus dit, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Et quelle est l'œuvre de Dieu? C'est l'heure de libérer du mal, libérer les opprimés, libérer ceux qui souffrent de l'injustice. Voilà l'œuvre de Dieu. Et Jésus continue. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Vous voyez que l'évangile de Jean est toujours un peu, c'est toujours très symbolique, très, aussi un peu difficile à comprendre. Et là, d'abord, une petite chose. D'abord, Jésus dit, il nous faut travailler. Ce mot dans l'évangile, le mot « il falloir », c'est nécessaire que. Ce mot dans l'évangile n'est utilisé qu'en référence à la glorification de Jésus, c'est-à-dire à la croix, où il est devenu la lumière du monde. Juste pour dire que faire le bien ne reste jamais impuni. Je répète, faire le bien ne reste jamais impuni. C'est-à-dire, faire le bien coûte. C'est pas gratuit. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous met en mouvement. Mais ça, c'est pas gratuit. Comme pour Jésus. Mais cela porte des fruits. Que faut-il faire pour accomplir les œuvres de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire pour faire les œuvres du Père? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait Jésus? La croix. C'est la croix, l'œuvre de Dieu. Et quand faut-il le faire? Cela doit être fait pendant qu'il fait jour. C'est le temps dans lequel l'homme vit, dans lequel il agit. Tant que nous vivons, il faut faire les œuvres de Dieu, c'est-à-dire donner sa vie. Eh bien, sa venue, la venue du Seigneur, la venue de Jésus qui donne sa vie pour nous, c'est la venue, c'est après sa venue, il fait jour toujours. Il n'y a plus de nuit. Et c'est précisément ce que le miracle de l'aveugle nous montre. Donc, le sens du fait que l'aveugle commence à voir est donné par le fait que Jésus, qui donne la vie pour nous, en fait, instaure un jour nouveau, un jour qui ne passe jamais. Et ça, c'est le nouveau regard sur la réalité. Donc, l'aveugle, ce que fait Jésus, c'est précisément de donner à l'homme la lumière définitive de ce qu'est l'homme, précisément à travers son humanité. C'est le jour. La nuit venue, personne ne peut opérer. Aussi, pour Jésus, viendra la nuit. C'est le symbole de la mort. Et pourtant, et cela change tout, juste au moment où il finit de travailler, donne sa vie, c'est-à-dire, il fait le plus grand travail. Sa nuit sera la lumière qui nous éclairera toujours. Lorsqu'il sera mis sur la croix, alors, précisément, il fera le plus grand travail et tout sera accompli, car il montrera pleinement son amour pour ses frères. Par la croix, une fois pour toutes et à jamais, c'est-à-dire encore aujourd'hui, il fait toujours jour. Maintenant, par la croix, nous sommes dans la lumière. Moi, je sais que cela pourrait sembler un peu mais je vous invite à méditer davantage, on le fait ensemble, ce que Florence a dit sur Jésus abandonné hier, ce qu'on comme ça passe par là. Ça passe par la croix. La résurrection passe par la croix. Mais la résurrection... Longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et donc, le pouvoir de Jésus et de sa parole, comme le disait ce matin Florence, est précisément celui de nous communiquer sa propre lumière. Et donc, maintenant, nous voyons. Nous voyons. Et nous voyons que cette affirmation « Je suis la lumière du monde », okay, nous le voyons avec un geste, à partir d'un geste très particulier. Et aussi un peu bizarre. Non. Donc, il faut regarder le geste parce que le geste est important. Le geste. Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sous les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va te laver à la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyer. L'aveugle y alla, il se lava, et à son retour, il voyait. Et donc, après avoir prétendu être la lumière, voici la preuve que c'est la lumière, que lui, il est la lumière. Le geste est évidemment symbolique. Jésus fait de la boue avec de la salive, il crache par terre. Or, la terre, c'est Adam. La terre, en hébreu, c'est Adam. Elle s'appelle Adam, le premier, l'homme de Genèse, non ? Car l'homme est fait de humus, de terre. Donc Dieu a façonné le premier homme avec la terre. Maintenant, il façonne l'homme nouveau avec de la terre et du crachat. Le crachat est quelque chose d'intime qui vient de l'intérieur. Et c'est un symbole de l'esprit. Jésus venait de dire dans le chapitre précédent qu'il était la source de l'eau vive, de l'esprit, et donc, par cela, Jésus crée l'homme nouveau, qui, en soi, est boue, terre, Adam. C'est lui-même cette boue. Jésus, pourquoi ? C'est lui-même, c'est-à-dire Jésus s'est fait boue. Jésus s'est fait terre comme nous tous. Il s'est fait homme, humble, humus. Et il a fini sous terre comme nous tous. Or, cette terre est mêlée à l'esprit, avec l'esprit du Fils qui devient solidaire de ses frères. Et son humanité nous est solidaire, parce qu'il est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, de Dieu avec tout homme. Et là, c'est la nouvelle création. Donc, la boue, le crachat, c'est le symbole du fait que Dieu a pris notre humanité et il nous sauve par là. Ce n'est pas un homme différent qui doit être sauvé. Jésus, que fait-il ? Jésus met sur nos yeux, à travers sa vie, à travers ses paroles, son humanité, l'homme nouveau selon le dessein originel de Dieu. C'est que nous sommes des enfants, c'est-à-dire c'est que nous sommes fils de Dieu, c'est que nous sommes frères, c'est que nous sommes infiniment aimer du Père, c'est que nous sommes appelés à nous aimer comme il nous a aimés. Voilà le miracle. C'est là le miracle. C'est le miracle que Jésus fait avec sa parole. Il place devant nos yeux ce qui est la vérité de notre humanité. Et c'est cette vérité, attestée par la parole, qui nous éclaire et nous fait comprendre qui nous sommes. Le premier acte baptismal est donc précisément la parole qui nous présente Jésus comme un homme nouveau. Donc, quand nous, avec le baptême, nous renaissons à une humanité nouvelle. La liturgie le dit, la liturgie du baptême le dit. Mais est-ce qu'on y croit vraiment ? Et donc, cette parole nous parle. Elle est là, sous nos yeux. Il est un vrai homme. Lui, Jésus, c'est un vrai homme. Lui, c'est de la boue, comme nous. Sa vie terrestre, son être humain, nous révèle notre vérité d'homme. C'est le sens du baptême. Et c'est précisément cela qui nous guérit de notre aveuglement, car nous avions une autre hypothèse sur l'homme et sur Dieu. Lui, quelle était notre hypothèse sur Dieu ? Celle qu'on vient de... Non, je n'ai pas confiance à cette humanité. On est pessimiste par rapport à... Non, par contre, non. Il est un... Lui, dans sa boue, dans son humanité, change l'image de Dieu et l'image de l'homme. Il ne s'agit pas de changer l'humanité. Il s'agit de changer les yeux, le regard. Et pour que nous faisions ça, il faut que nous changeons le regard. Il nous donne la vérité qui nous libère. Alors, ce simple geste de Jésus est vraiment extraordinaire. Il est sublime. Il est sublime. Parce que ce geste, la boue, c'est l'humanité. Il nous sauve par notre humanité, pas en niant l'humanité. Mais ce n'est pas comme s'il le guérissait. Il met juste sa boue sur ses yeux et lui dit ensuite un mot. Il ne suffit pas que Jésus fasse ça. Il dit, va te laver. L'aveugle y alla, il se lava, il voyait. Le baptême n'est pas une chose automatique. C'est une collaboration. Jésus dit un mot, fait une proposition. Il nous a proposé l'homme nouveau. À nous maintenant de répondre à cette proposition. Et quelle est la proposition ? Va te laver à la piscine de Siloé, qui signifie envoyer. C'est lui qui est envoyé et loin. Loin, loin. Le Christ, le Messie. En grec, il y a vraiment le mot oindre. C'est le même mot de l'onction messianique. Jésus lui dit d'aller se jeter dans la piscine de Siloé, qu'on appelle l'envoyé, c'est-à-dire plongez-vous à moi, dans ma mort et ma résurrection. C'est le baptême. Laissez cette parole entrer en vous et entrer vous-même dans la lumière. Dieu ne nous dit qu'un mot parce qu'il respecte notre liberté. C'est nous qui exécutons la parole. Nous nous immergeons dans cette nouvelle lumière que nous avons reçue et cette lumière devient notre vie. Eh bien, à un moment donné, quand on accepte ça, il y a... Moi, je voudrais vraiment... Pour moi, c'était vraiment un changement de regard. Quand j'ai compris, c'était un changement de regard. Maintenant, je vous dis ce que je voulais dire. C'est pour ça que j'ai choisi cette page de l'Évangile. La surprise de voir la lumière pour la première fois signifie la surprise de naître. Imaginez que vous n'avez jamais vu et que vous avez la stupéfaction d'ouvrir les yeux et de voir les choses dans leur lumière du matin, comme Adam, le premier jour de la création. Ce serait la manière constante de voir la réalité. Enfant, qu'est-ce que je fais ? Je vois l'autre. Je me vois. Lui, l'autre, il se voit par mon regard, parce que je le vois nouveau. Évidemment, c'est une vision spirituelle. Okay ? Mais la question, c'est que nous n'avons jamais vu cette vision. Et pourtant, tout est là. La suite de l'histoire, je voulais rencontrer l'aveugle-né, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit aux autres simplement ce fait. Il dit, je ne voyais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne voyais pas. Maintenant, je vois. Je ne voyais pas. Maintenant, je vois. Je ne voyais pas. Maintenant, je vois. Seigneur. On pense souvent qu'il faut changer le monde, qu'il faut changer la réalité. Le monde, cependant, ne doit pas être changé. Il doit être vu avec des yeux nouveaux. Si nous pensons que le monde doit changer, ça signifie que nous jugeons le monde. Nous devons changer notre cœur, notre façon de voir, de concevoir, pour l'interpréter d'une manière nouvelle. Cela nous permet d'entrer en rapport avec nous-mêmes, en rapport avec les autres sans les juger, et avec la réalité, avec les yeux de Dieu. Et alors le monde devient beau selon le plan de Dieu. Je me souviens très bien de cette impression incroyable. Je vous l'ai déjà dit, j'arrivais à l'école et tout était beau. Je voyais les gens, c'était mes frères, c'était mes sœurs, c'était déjà tout fait. Et qu'est-ce que c'est cette boue que Jésus utilise ? C'est son humanité. Nous voudrions un salut qui nous sortirait de notre condition humaine, de limite, de terre et de boue. Nous voudrions être des anges, n'est-ce pas ? Non ? Ce serait sympa, non Claude ? Comme ça, on rentre en Nantes en volant. Mais Jésus nous sauve précisément avec son humanité, avec sa fragilité, avec ses limites. Assumant, lui, Dieu, assumant sa réalité et son humanité avec sa fragilité, ses limites, pourquoi ? Parce que c'est un lieu de communion. Si je suis limité, j'ai besoin de Florence. Mes limites ont besoin des autres. Et donc, les limites sont le lieu de la communion. Ça, c'est le regard nouveau. Et donc, les limites ne sont pas un lieu de rivalité, mais de communion. Le salut est là. Si chacun de nous assumait ses limites comme lieu de communion avec l'autre, alors il deviendrait comme Dieu. Car ce qui nous rend comme Dieu n'est pas d'être riche, beau, intelligent, puissant et bon. Ce que nous faisons comme Dieu est notre limite quand il devient un lieu de communion et d'amour, et non de violence et de mort. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour. Ainsi, toutes les belles choses que nous pensons posséder ne nous rendent pas semblables à Dieu, mais faire de ce que nous sommes, dans notre quotidien, dans notre être terre et boue, surtout dans nos limites, au lieu d'être le lieu de la rivalité et de l'arrogance, devient le lieu de la solidarité et de l'amour. Alors, cette boue est belle. Et il n'y a pas d'autre salut que de la boue. Est-ce que vous avez encore 5 minutes de résistance, d'endurance? Il me semble que c'est précisément ce qui s'est passé à Saint-Paul avec la conversion. Parce que pour lui... Ah, pardonnez-moi, la mosaïque, non, vous, dans la salle à manger, vous la verrez à nouveau. Sur le fond de la salle, de la mosaïque, c'est une lumière qui est derrière, non, partout. Non. Eh bien, cette lumière pourrait être un regard nouveau sur le monde. Non. Et donc, pour Saint-Paul... Vous souvenez le miracle de Paul qui se convertit, non? Ça se passe par quoi? Ça se passe par les yeux. Ils avaient des écailles là, non? Comme ils étaient aveugles. Et à un moment donné, par sa conversion, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à voir. Et il voit quoi? Il voit que l'humanité tout entière est une humanité fille de Dieu. Enfin, Paul voit l'autre. Et en voyant l'autre, il voit soi-même. C'est lui qui a ouvert Paul, très clairement dans la lettre aux Galates, en controverse avec beaucoup d'autres, et aussi au Concile de Jérusalem. Vous vous souvenez, non? La petite querelle avec Pierre, avec Jacques, non? Peut-être petite, pas trop petite en fait. Eh bien, il a ouvert le monde à la vérité de l'Évangile ou à la liberté des fils qui consiste en cela, que Dieu est vraiment Père de tous. Parce que Jésus, le Fils, se fait le dernier de tous, frère de tous. Et donc, le christianisme est, pour tous, le lieu de l'amour du Père et donc de la liberté de la loi, et donc l'accomplissement de la loi. L'accomplissement de la promesse faite à Abraham, qui était de bénir dans la descendance d'Abraham, qui est le Christ, l'univers tout entier. C'est donc le grand plan de Dieu, d'être tout en tous, et cela est découvert par Paul dans ce moment unique de conversion. Et Paul, dans la nuit de sa conduite, il tuait les chrétiens, hein, il persécutait les chrétiens, a vraiment vu toute la beauté de Dieu et du Christ, dans l'instant même de sa conversion, dans la nuit de l'aveuglement, a eu cette lumière qui le rendra à son tour aveugle, tellement il était fort qu'il ne voyait plus rien. Pour Luc, non, qui rend compte de Paul, la mémoire de la conversion de Paul est fondamentale, parce que c'est le lieu central pour comprendre le christianisme dans son universalité. Et si l'on lit les lettres de Paul, on revient constamment à cette expérience. Paul rencontre toujours. Moi, j'étais nul et j'ai été sauvé. Et moi, je parle aux païens. Et comme ça, non, et ainsi de suite. Aux gens, on ne dit pas païens, non? Gentil, comment on dit en français? Oui, aux païens, oui. C'est donc la rupture avec une loi que seuls quelques-uns pouvaient observer pour en venir à une universalité fondée sur la grâce. Dieu, par grâce, aime tout le monde, sauve tout le monde, parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'il est amour. Nous devons remercier Paul parce qu'il y a dans le monde, entre autres, ces idéaux de fraternité, d'universalité, de liberté transmis par lui pour tous. C'est intéressant le fait qu'on revient aux trois mots de la Révolution française. Mais vous comprenez que c'est tout autre chose. C'est tout autre chose parce que tout cela est fondé sur la croix du Christ. C'est lui qui apporte la liberté de l'Évangile, la liberté des fils. Une liberté où il n'y a ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Il est le premier qui a brisé toutes les barrières, naturelles et culturelles et religieuses, pour mettre tout le monde en relation dans l'unique amour. Et il devient païen avec les païens, grec avec les grecs, juif avec les juifs. On comprend mieux pourquoi Paul a cette liberté de s'adapter à tout le monde. Parce qu'il n'avait pas de limite à lui-même. Ainsi, il relativise tout ce que nous absolutisons. Car le seul absolu est l'amour, qui nous rend tous relatifs à l'amour. Un amour dans la spécificité de chacun, donc qui respecte toutes les individualités et toutes les cultures. Et vous voyez que c'est intéressant. Hein, c'est-à-dire, moi, quand j'ai compris ça, je pensais à mes amis non-croyants, je pensais à mes élèves, les bons et les moins bons. Je pensais à mes fautes, à mes limites. Je pensais à mon père qui venait de mourir. Je pensais, et je remerciais de tout. Parce que changer le regard comme ça donne une gratitude immense envers Dieu. Et ça libère vraiment. Voilà, donc je vous donne pour la méditation seulement quelques textes, mais en fait, c'est des textes qui rencontrent les différents miracles des aveugles qui commencent à voir dans les différents évangiles.
Tu nous as communiqué une expérience au-delà du commentaire de l'épisode de l'aveugle-né. Et ce qui m'est venu uniquement, c'est cette phrase que, je ne sais pas de quel siècle, mais qui est écrite dans une petite église en Toscane, en latin, et qui est une lumière, parce qu'elle dit simplement « Ma nuit n'a pas d'obscurité ». Ma nuit n'a pas d'obscurité. Je suis la lumière du monde. Enfin, c'est la même chose. Voilà. Il me semble qu'on peut s'arrêter là parce que...